c'est arrivé cette semaine.
Bonjour Patrice Debré.
Bonjour Patrick Payen, bonjour à vos auditeurs.
Professeur d'immunologie, membre de l'Académie de médecine, ancien ambassadeur de France chargé de la lutte contre le sida et les MST, vous avez publié il y a quelques années un livre très éclairant sur notre situation d'aujourd'hui, vie et mort des épidémies, dans lequel vous montrez que les maladies infectieuses font partie de l'histoire de l'humanité, qu'elles sont le produit du bouillonnement de la vie et que l'homme devra pour l'éternité apprendre à vivre et survivre avec les microbes. Ça veut dire que ce qui nous arrive n'a rien d'une maladie moderne ?
Oui, c'est ce que j'ai voulu montrer à l'époque, en période, si je puis dire, de paix, c'est-à-dire au moment où nous étions entre plusieurs épidémies. Je voulais montrer comment l'homme doit apprendre à vivre avec les émergences infectieuses et reconnaître finalement qu'elles sont imprévisibles. Et par conséquent, développer déjà une culture de risque et savoir que toute épidémie peut survenir d'un moment à l'autre.
L'idée court pourtant aujourd'hui, face au désordre de la planète, que la nature se venge ou qu'elle nous envoie un message. C'est une idée trompeuse ?
Non, c'est une idée trompeuse. Je veux dire, les épidémies ont toujours existé depuis que l'homme existe, ou tout du moins depuis qu'on peut apprendre l'histoire de l'homme, au moins par déjà les paléontologues qui montrent qu'à l'époque préhistorique, il existait déjà des épidémies, qui d'ailleurs, pour la plupart d'entre elles, sont acquises par les animaux et ont été acquises à ce moment-là, au moment de la domestication des animaux.
Oui, mais justement, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un effet de la déforestation qui peut augmenter les contacts entre l'homme et la faune animale sauvage ? On sait que le virus du Covid-19 vient de là, d'un réservoir animal.
Alors, il y a, je dirais, deux grands mécanismes, parce que nous avons affaire à une dynamique complexe. La première, c'est lié aux capacités et aux propriétés adaptatives des pathogènes, et en particulier à la capacité qu'ont les pathogènes de s'adapter de l'animal à l'homme. Et puis d'un autre côté, et c'est à cela que vous faites allusion, il y a les transformations écologiques, celles dont vous parliez, de la déforestation, mais aussi il y en a d'autres, démographiques, technologiques ou socio-économiques, qui sont induites par nos sociétés et qui font ce passage de l'homme à l'homme.
Il y a quand même beaucoup d'interrogations, vous le savez, professeur, sur l'apparition, l'émergence soudaine d'un virus très agressif et très contagieux, et certains se demandent qui a créé ce microbe ? Que répondre à cela ?
Ce microbe, il passe, et celui-ci comme d'autres d'ailleurs, de l'animal à l'homme. Ça a été l'objet d'une rencontre. Vous savez, finalement, il y a deux filtres. Le premier, c'est celui de la rencontre, en l'occurrence de l'animal à l'homme. Et aujourd'hui, on en parle beaucoup à propos du confinement, de l'homme à l'homme, bien entendu. Et puis ensuite, vous avez un deuxième filtre, qui est celui du système immunitaire. Mais pour parler de cette rencontre, la première dont vous parlez, de l'animal à l'homme, eh bien, c'est vrai que des propriétés écologiques particulières ont fait qu'à une occasion ou l'autre, l'homme est rentré en contact. Ici, on parle de réservoirs animaux tels les chauves-souris ou le pangolin. Je crois que ça restera à démontrer. Mais c'est clair que ce passage de l'homme à l'animal est le fait d'une rencontre particulière. Ça a été l'objet pour le SARS à l'époque, celui de 2003.
Et pour la rage, évidemment aussi, qui a fait beaucoup de rage.
Pratiquement toutes les grandes épidémies sont l'objet de rencontres. Et les grandes pestes, bien sûr, du Moyen-Âge, vous le savez, entre le rat, la puce et l'homme.
Bien sûr. Alors, dans l'histoire des épidémies, il y a tout...
Que l'histoire des épidémies nous apprend, en fait, pour chacune d'entre elles, comment se passe d'une épidémie à l'autre, d'un animal à l'homme à l'autre, les différentes formules de passage du pathogène à l'espèce humaine. Dans un autre livre que j'ai écrit d'ailleurs à la suite sur les révolutions de la biologie, je montre aussi comment l'homme est capable de se défendre contre ces différents pathogènes.
Bien sûr. Et oui, parce que si rien ou presque n'a changé depuis la préhistoire, le presque tient bien sûr dans les moyens de lutte qui sont beaucoup plus efficaces et rapides aujourd'hui. Dans l'histoire des épidémies, il y a toujours des histoires de confinement et aussi de ceux qui s'y dérobent. Parallèle stupéfiant, vous rappelez dans votre livre que quand la peste atteignit l'Europe en 1347, la réponse des citoyens les plus fortunés fut de fuir les villes infestées pour gagner les campagnes. Le comportement de quelques-uns dissémina l'épidémie chez beaucoup. C'est un peu ce qui vient de se passer 7 siècles plus tard.
Oui, c'est ça, c'est ces trois mots qui étaient connus à l'époque, sitôt, longe et tard, qui viennent de l'italien d'ailleurs, et qui ont été décrits, et cette espèce de fuite des riches d'abord des riches et des nantis vers les campagnes et qui ont, à l'époque, en particulier pour les types de cette peste dont vous parlez, ou de cet épisode de peste plus exactement, qui ont donc disséminé le virus dans les différents pays.
Mais le confinement
aujourd'hui, avec les communications rapides, les différentes formules qui sont ou qui ont été l'objet de la dispersion des épidémies dans le monde au cours des siècles passés.
Le confinement, l'absence de contact demeure toujours la réponse appropriée à ce type de fléau.
C'est absolument capital. Et si vous relisez les textes, si l'on étudie pendant toutes ces périodes qui ont été proposées et qui a été l'objet tout le monde le sait, du mot quarantaine, on voit combien il est important, absolument capital, de maintenir ce confinement et de le respecter.
Ouais, parce qu'il y a encore ici et là des tenants de l'idée que le confinement est une bêtise, qu'il faut laisser se propager le virus, dépister le plus largement et protéger les plus fragiles. C'est une alternative ou c'est idiot ?
Non, il faut éviter bien évidemment les rencontres entre le pathogène et l'homme, le plus possible, et donc maintenir ce confinement et retarder au maximum du possible l'impact que peut avoir la dispersion de la maladie.
Et puis les règles d'hygiène élémentaires, comme vous êtes aussi, Patrice Debray, l'auteur d'une biographie de Pasteur, vous rappelez que Louis Pasteur fut le premier à refuser les poignées de main par peur des contagions.
Oui, je rappelais même qu'il avait perdu dans un combat électoral pour ne pas oser serrer les mains de ses futurs ou potentiels électeurs. Mais c'est absolument capital. Et si vous revenez au premier, à l'inventeur de l'hygiène, qui est Arthur Semmelweis, on voit combien le lavage des mains a été important dans l'historique de l'hygiène.
Et c'est comme ça, pour reprendre la fin du titre de votre livre, c'est comme ça que meurt les épidémies.
Oui, les épidémies, heureusement, s'arrêtent, encore que pour beaucoup d'entre elles, souvenez-vous, la peste, elles ont continué à réapparaître par épisode, et puis d'autres, comme le sida, la tuberculose, le paludisme, continuent bien évidemment à sévir. Mais un certain nombre d'entre elles, quelques épidémies aiguës, ont cessé par des mesures telles que celles que nous proposons ou qui sont proposées aujourd'hui et pour lesquelles, je reviens à nouveau, il faut impérativement suivre.
Merci beaucoup Patrice Debray. Je rappelle l'un de vos livres, Vie et mort des épidémies avec Jean-Paul Gonzalez, qui est disponible en e-book puisque les librairies sont fermées. Et puis vos deux derniers, Les révolutions de la biologie et la condition humaine, paru en janvier, et celui consacré à votre grand-père Robert Debray, tous parus chez Odile Jacob. Merci à vous.
Merci beaucoup et merci à vos auditeurs.